Bonjour à tous. Alors, comme Mathias nous l'a dit, pour ceux qui nous rendent visite et qui ne seraient pas au courant, nous suivons actuellement une campagne sur le thème de l'écoute. C'est une campagne qui est faite dans le cadre de notre union d'église. Et donc, c'est une campagne qui dure 6 semaines. Nous en sommes à la 5e semaine. La campagne a débuté il y a donc un mois. Et il y a donc différents thèmes déjà que nous avons traités. Le thème de démarrage de notre week-end d'église, c'était « Dieu parle ». Et nous avons vu que Dieu peut nous parler de différentes manières. Ensuite, nous nous sommes mis à l'écoute, à l'écoute de Dieu. Puis la 3e semaine, nous avons vu que écouter, c'était prendre position. Position notamment en Christ. Et puis, la semaine dernière, c'est quand on n'écoute pas. Et aujourd'hui, donc, on va traiter d'un thème, c'est quand écouter me déplace. Alors, chaque dimanche, il y a un texte de référence pour le thème donné. Et aujourd'hui, avant de démarrer avec le texte de référence, je vous invite à lire un premier texte qui est en 1 Samuel au chapitre 10. Samuel convoqua le peuple auprès de l'Éternel à Mitzpah. Il dit aux Israélites, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai moi-même fait sortir d'Égypte et je vous ai libéré des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous oppriment. Et vous, aujourd'hui, vous avez rejeté votre Dieu, qui pourtant vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos détresses. Vous lui avez dit, il faut que tu établisses un roi sur nous. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, présentez-vous devant l'Éternel par tribu et par famille. » Samuel fit avancer toutes les tribus d'Israël l'une après l'autre, et le sort désigna la tribu de Benjamin. Puis il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et le sort désigna la famille de Matri. Finalement, ce fut Saül, fils de Kish, qui fut désigné. On le chercha, mais on ne réussit pas à le trouver. Alors on interrogea de nouveau l'Éternel en demandant, « Y a-t-il encore quelqu'un qui soit venu ici ?» Et l'Éternel répondit, « Oui, il se cache du côté des bagages. » Ils coururent et le tirèrent de là, pour le placer au milieu du peuple, et voici qu'il dépassait tout le monde de la tête. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez celui que l'Éternel a choisi, il n'a pas son pareil dans tout Israël. » Tous l'acclamèrent au cri de « Vive le roi !» Samuel énuméra devant eux le droit concernant le roi, puis il le consigna par écrit dans un document qu'il plaça dans le sanctuaire devant l'Éternel. Après cela, il renvoya le peuple chacun chez soi. Et puis donc notre texte du jour, un peu plus loin, en 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël ? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie vers Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Samuel répondit, « Comment puis-je faire cela ? Saül l'apprendra et il me fera mourir. » L'Éternel lui dit, « Tu amèneras une génisse et tu diras que tu vas offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe pour y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. » Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva à Bethléem, les responsables de la ville inquiets vinrent au-devant de lui et lui demandèrent « Ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon ?»« Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. » Il demanda également à Isaïe et à ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. À leur arrivée, il remarqua Éliab, et il se dit, « Certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. » Mais l'Éternel lui dit, « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et par sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que jugent les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ensuite, Isaïe appela Abinadab et le présenta à Samuel, mais il dit « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Puis Isaïe fit avancer Shammah. Samuel dit à Isaïe à nouveau « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe présenta ainsi ses 7 fils à Samuel et celui-ci lui dit « L'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. » Puis il demanda « Est-ce que ce sont là tous tes garçons ?»« Non, répondit Isaïe, il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. »« Envoie-le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. » Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux, et qui avait une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « C'est lui. Vas-y, confère-lui l'onction. » Samuel prit la corne d'huile et l'en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. Avec ce texte de 1 Samuel 16 se termine la section du livre qui relate les premières années de la royauté de Saül. Le récit s'attache tout particulièrement à souligner l'échec et le rejet du premier roi d'Israël. Et c'est vrai que même si le texte fait quelques remarques positives sur ce premier roi, tels que par exemple ses combats courageux et victorieux, eh bien le narrateur met surtout en avant le fait que Saül ne se montre pas du tout à la hauteur d'un roi serviteur et exemplaire, un roi selon le cœur de Dieu. Son action s'avère en effet souvent hâtive, inadaptée, marquée par l'orgueil et influencée par le peuple et ses soldats. Et le pire, c'est qu'à 2 reprises, eh bien Saül va faire preuve de désobéissance envers l'Éternel. Il va ainsi rompre le pacte qui régit l'exercice de la royauté qui a été conclu avec le Dieu d'Israël. En le faisant roi, l'Éternel a accédé au désir du peuple, ce qui rend déjà son pouvoir problématique. Cependant, Saül a été averti que s'il se soumettait à Dieu, sa royauté serait affermie pour toujours. Malheureusement, il a utilisé sa position pour son profit personnel et il a ainsi été rejeté. En effet, au chapitre 13, Saül désobéit une première fois en n'écoutant pas la voix de Dieu. Samuel l'avertit que sa royauté ne subsistera pas et que Dieu a décidé de se chercher un homme qui correspond à ses désirs pour l'établir roi. Néanmoins, le rejet de Saül comme roi n'est pas encore définitif et irrévocable dans un certain sens à ce moment-là. Et donc Saül a encore de l'espace et du temps devant lui pour changer, pour se mettre à l'écoute de Dieu et pour lui obéir. Il a comme quelque part une seconde chance à ce moment-là. Mais au chapitre 15, qui précède notre texte de référence de ce matin, eh bien Saül désobéit une nouvelle fois. Alors, Dieu déclare à Samuel, « Je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül roi, parce qu'il s'est détourné de moi et qu'il n'a pas tenu compte de mes ordres. » Samuel est bouleversé par cette nouvelle et il implore l'Éternel toute la nuit. Malgré cela, rien ne semble y faire et le lendemain matin, il va vers Saül pour lui annoncer la décision divine. Et Saül s'empêtre dans son péché. Il ne reconnaît pas qu'il a désobéi à l'Éternel. Et alors que Samuel s'apprête à le quitter, il va même jusqu'à arracher le vêtement de Samuel, comme si symboliquement, quelque part, il voulait arracher de la main de Samuel et de la main de Dieu lui-même la royauté pour lui. Mais Samuel et Dieu, de fait, restent inflexibles quant à cette décision. Le chapitre 15 finit par ces mots. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. mais il était dans l'affliction à son sujet parce que l'Éternel avait décidé d'annuler ce qu'il avait fait en l'établissant roi sur Israël. Et le chapitre 16 que nous avons donc lu commence par cette question de Dieu à Samuel. « Combien de temps vas-tu encore pleurer sur Saül ?» Pourquoi Samuel est-il si bouleversé par ce qui l'arrive ? Alors je vous propose quelques hypothèses. Ce sont des hypothèses. Samuel s'est attaché à Saül. Et c'est vrai que Saül a bien des aspects différents dans sa personnalité et c'est vrai qu'il peut avoir des aspects attachants. Par exemple, quand Samuel le rencontre pour la première fois, eh bien, Saül semble humble, effacé, il semble manquer de confiance en lui, il est issu d'une famille modeste et il n'a pas l'air de vouloir rechercher particulièrement le pouvoir. Samuel s'est ainsi attaché à Saül au fil du temps. Il espère qu'il va réussir à devenir ce roi que le peuple a tant demandé, un roi selon le cœur de Dieu. Mais les fragilités et l'inconstance de Saül sont trop importantes pour lui permettre d'être ce roi selon le cœur de Dieu. Et puis, nous l'avons vu dans les semaines précédentes, eh bien Samuel a deux fils qui n'ont pas suivi ses pas. À la différence d'Élie, le sacrificateur qu'il a enseigné et dont les fils non plus n'ont pas suivi les pas, eh bien, Dieu, lui, ne semble pas avoir tenu rigueur à Samuel. Peut-être parce que Samuel, à la différence d'Élie, a joué son rôle de père en enseignant et en avertissant ses fils, en prenant position, justement. Et avec Saül, eh bien, c'est comme si une seconde chance s'offrait quelque part à Samuel. Une nouvelle chance de pouvoir transmettre sa foi à quelqu'un, à un jeune, à quelqu'un qu'il a peut-être considéré, peut-être, comme un fils spirituel, au moins un temps. Et le rejet de Saül peut aussi sonner quelque part comme un échec pour Samuel en tant que père spirituel. Saül non plus n'a pas suivi ses pas, et cela ne devait pas être facile à vivre non plus pour Samuel. Samuel est donc dans une espèce de phase de deuil lorsque nous démarrons ce chapitre. Il doit faire le deuil de Saül comme roi d'Israël et puis comme fils spirituel. Et nous, quels sont les deuils que nous sommes appelés à faire aujourd'hui ? Existe-t-il des circonstances, des personnes qui nous font pleurer dans l'intimité de notre maison comme Samuel ? Y a-t-il des choses que nous n'arrivons pas à accepter, à consentir? Il arrive des fois des moments dans notre vie où nous sentons plus ou moins confusément que nous devrions tourner la page, mais nous n'y arrivons pas. Il y a parfois des circonstances dans notre vie qui nous poussent à des changements dans notre vie, mais nous ne sommes pas toujours prêts. Alors nous cherchons à résister au changement en le refusant. Ou bien nous cherchons encore à éviter ce changement, par exemple en procrastinant ou au travers d'addictions. Ou bien encore, nous nous acharnons à trouver des solutions qui vont maintenir la situation telle qu'elle est pour éviter le changement. Mais si vous lisez le prochain rayon, comme vous allez pouvoir le faire prochainement, très rapidement, eh bien, vous le constaterez, la vie, c'est le changement. Voilà, je fais un scoop. Et pour changer, eh bien, il y a parfois des deuils à faire, des pages à tourner. Et la parole de Dieu déplace ici Samuel. Elle le secoue pour qu'il arrête de s'apitoyer sur le sort de Saül et sur le sien peut-être. La parole de Dieu nous déplace du passé vers le futur. Elle nous met en mouvement. Elle nous oblige à sortir de notre zone de confort pour aller à la rencontre de personnes que nous n'avons peut-être pas forcément envie de rencontrer et pour faire des choses que nous n'avons pas forcément envie de faire. Et Samuel n'avait certainement pas envie d'aller à la rencontre d'un nouvel homme pour loindre comme roi d'Israël. Et la preuve, c'est que le premier réflexe qu'il a quand Dieu lui parle, c'est de dire, de se défiler, c'est de dire, mais comment pourrais-je faire cela? Saül va l'apprendre et il va me tuer. Mais si Samuel ne se reprend pas, s'il n'écoute pas Dieu, s'il ne se met pas à nouveau en route, s'il ne répond pas à son appel, Israël n'aura pas de roi, ou plutôt pire, il aura un roi, mais inapproprié. Samuel finit heureusement par tourner la page et il se met en route pour aller à Bethléem. Samuel est, et il montrera toute sa vie, qu'il est un serviteur fidèle, obéissant et qui désire plus que tout et avant tout être là où le Seigneur le veut. Et nous, qu'est-ce qui nous paralyse dans notre vie en ce moment et nous empêche d'avancer? Pourquoi résistons-nous? Que cherchons-nous à fuir? Ou bien pourquoi cherchons-nous à nous acharner à trouver des solutions qui, de toute évidence, n'existent pas? En répondant sincèrement et honnêtement à ces questions ce matin devant Dieu, consentons à faire le deuil de la situation que nous vivons ou bien de la personne que nous pleurons. Consentons à tourner la page pour nous tourner vers le futur et vers les bénédictions que Dieu a pour nous en réserve. Entendons sa voix douce et calme nous dire ce matin « Combien de temps vas-tu encore pleurer ? Arrête. Viens, prends ma main. J'ai de beaux projets pour toi. » Samuel se rend donc à Bethléem. Là, il invite les anciens de la ville au sacrifice ainsi que la famille d'Isaïe. Isaïe lui présente ainsi tous ses fils un par un et lorsque Samuel voit arriver Eliab, l'aîné, il ne peut s'empêcher de penser que c'est lui que Dieu a choisi. Eliab a en effet une belle apparence et une haute taille. Il ressemble par certains aspects à Saül, présenté au chapitre 9 comme un beau jeune homme avec une belle allure qui dépassait tous les Israélites de la tête. Pour Samuel, les critères de Dieu semblent donc être une haute taille et une belle apparence. Et nous sommes tellement semblables à Samuel de ce point de vue-là. Nous évaluons et nous jugeons souvent les circonstances et les personnes de façon superficielle, en prenant en compte des informations évidentes, apparentes. Et parfois même nous pensons savoir ce que l'autre pense, même ce que Dieu lui-même peut penser. Et nous nous construisons ainsi une certaine image de l'autre, une certaine image de Dieu, l'enfermant dans nos préjugés. Si Samuel avait pu choisir, il est fort possible que son choix se soit porté sur Eliab. Et une nouvelle fois, Dieu lui parle. Et il lui dit cette phrase que nous connaissons bien, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Samuel écoute Dieu. Il réfléchit. Quand Samuel avait été présenté comme roi au peuple, on l'a lu au chapitre 10, eh bien, sa stature avait frappé tout le peuple. Mais l'apparence ne suffit pas à faire un bon roi, et la suite de l'histoire de Saül le montre. Il faut aussi avoir un cœur selon Dieu, un cœur de serviteur, comme nous l'avions évoqué lorsque nous avions vu 1 Corinthiens 4 et 5 cet été. Or, Saül a montré que son cœur n'était pas entièrement attaché à Dieu, qu'il était orgueilleux et que le pouvoir lui était monté à la tête. Quant à Eliab, le roi se devait de se montrer courageux, de montrer l'exemple au peuple et notamment à ses soldats pour leur insuffler l'énergie suffisante pour aller combattre l'ennemi. Et quand au chapitre suivant, au chapitre 17, Goliath vient affronter, défier Israël et que David arrive dans le camp et commence à interroger tout le monde pour savoir « Mais pourquoi est-ce que personne n'est allé défier ce géant ?» Eh bien, Eliab vient, il le reprend, il se met en colère contre lui. Pourquoi ? Peut-être une des raisons, c'est qu'il savait au fond de lui que David était peut-être plus déterminé et plus courageux que lui pour aller affronter Goliath. Ainsi, ce qui s'est passé avant notre récit en 1 Samuel 16 et ce qui se passe après notre récit donne raison à Dieu. Ce n'est pas l'apparence qui fait un bon roi, mais son cœur pour Dieu. Dieu déplace ici le regard de Samuel. Il l'amène à considérer les personnes et les circonstances avec un autre regard, le sien. Bien que Samuel soit âgé, il devait avoir 80 ans à peu près, bien qu'il soit un prophète extraordinaire, qu'il fût un juge formidable dans sa façon de diriger le pays, bien qu'il ait de l'expérience, eh bien, il avait quand même besoin de cette leçon, apprendre à regarder avec le regard de Dieu. Et nous, quel regard jetons-nous sur les autres, ou bien sur les circonstances de notre vie? Quand nous sommes en relation avec quelqu'un, regardons-nous seulement son apparence ou ce qu'il dégage en apparence? Avant de juger quelqu'un, Dieu nous interpelle et il nous encourage à creuser la relation en tâchant de voir ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Et puis, quel regard jetons-nous sur nos circonstances de vie? Parfois, nous pouvons nous laisser influencer par des situations, par des propositions qui peuvent sembler formidables en apparence, mais qui se révèlent finalement désastreuses pour nos vies. Parfois aussi, nous pouvons avoir l'impression de vivre des choses très difficiles, très lourdes, que rien n'avance, que tout semble figé, qu'il y a des géants partout et nous sommes découragés. Et ce matin, Dieu nous parle. Et il nous dit à travers ce texte, change ton regard. Change ton regard d'abord sur les autres. Arrête de juger. Arrête de critiquer sur des apparences, avec des informations bien insuffisantes, ton voisin, ton collègue de travail, ton frère, ta sœur en Christ. Prends le temps de parler avec lui. Prends le temps de parler avec elle, de mieux le connaître. Invite-le chez toi, par exemple, ou va boire un café avec lui et prends le temps de parler et de l'écouter. Alors, tu sauras mieux qui il ou elle est vraiment et ce qui se cache réellement dans son cœur. Et puis, sache que ta foi ne dépend pas des circonstances. Et il est vrai que il est possible qu'à certains moments de notre vie, eh bien, notre regard se déplace lentement mais sûrement de Dieu vers les circonstances de notre vie, vers ce qui rend ces circonstances de vie difficiles. Et nous finissons par ne plus voir que le problème et ne plus voir Dieu agir ou ne serait-ce que l'entendre nous parler. Parfois, nous nous habituons à certaines bénédictions et nous les considérons finalement comme des dûs. Et il faut alors que Dieu fasse preuve nous prive de certaines bénédictions pour que nous apprenions tout à nouveau à regarder à lui et à ne dépendre que de lui. Nous sommes appelés à regarder non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. C'est l'apôtre Paul qui le dit en 2 Corinthiens 4. Il y exprime dans ce chapitre qu'en toute circonstance, il se trouve dans la détresse, déconcerté, pourchassé, terrassé. Mais son regard ne se fixe pas sur les circonstances qui l'amènent à être pourchassé ou dans la détresse. Non, il voit plus loin, il voit dans l'invisible. Et surtout, il fixe son regard sur Jésus. Et comme nous aussi, il peut se fortifier avec le témoignage des héros de la foi, avec ces hommes et ces femmes qui peuvent nous entourer et qui ont vécu des délivrances de la part de Dieu alors qu'ils ont vécu des moments difficiles dans leur vie. Paul a fait le choix, comme d'autres croyants, de dire « Il m'arrive telle circonstance dans ma vie et je me sens démuni, désespéré, découragé, mais je te fais confiance, Seigneur. » Je regarde à toi dans cette circonstance et je te fais confiance parce que je sais que tu es là et que tu ne m'abandonneras pas. Et cette série sur l'écoute nous invite au même mouvement. Nous mettre tout à nouveau à l'écoute de Dieu et fixer nos regards sur Jésus Alors que nous vivons dans un monde où tout est fait pour que nous ne nous posions pas, pour que nous n'écoutions pas et pour que nous ne regardions pas à Jésus. Tous les fils passent donc un par un devant Samuel, mais Dieu n'en choisit aucun. Samuel demande alors à Isaïe s'il n'y a pas encore quelqu'un. Isaïe lui dit qu'il y a, oui, il y a bien le plus jeune là-bas qui garde les moutons. Alors Samuel ordonne à Isaïe qu'on aille le chercher. Et quand David arrive, Dieu dit alors à Samuel, c'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Et ce qui est frappant, c'est que le jour où Saül et David sont présentés pour la première fois comme roi à d'autres, eh bien ils se cachent. Saül, on l'a lu, il se cache parmi les bagages. Il se cache dans l'éphémère, dans l'avoir. En tout cas, il n'est pas au milieu du peuple. On dirait qu'il a peur des autres, qu'il se cache d'eux. Il a déjà été oint par Samuel en privé, dans les chapitres précédents, donc il sait que Dieu l'a désigné comme roi. Mais on dirait qu'il n'arrive pas à assumer cela, et notamment devant les autres. Il a vraiment un problème relationnel. Quant à David, lui, alors on va peut-être pas dire qu'il se cache exactement, mais en tout cas qu'il est à l'écart. Est-ce que c'est lui qui a choisi de se mettre à l'écart, ou est-ce que son père, c'est lui qui l'a mis à l'écart, lui disant « Allez, tu vas aller là-bas garder les moutons ?» Ça, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que dans la solitude et le silence, eh bien, David apprend à cultiver sa relation et sa foi en Dieu. Il garde les moutons et, d'un certain point de vue, on peut dire que quelque part, eh bien, il témoigne son amour pour les êtres vivants. Il montre en tout cas une certaine sensibilité pastorale. Ces moutons, en effet, il les aime. On en a parlé justement, tiens, Mathias nous l'a dit tout à l'heure. Il les aime, il en prend soin, et quand il y a un ours ou une bête féroce qui arrive, il les protège, il les défend, et il le dira à Saül au chapitre suivant, à un moment d'aller affronter Goliath. Oui, ce cœur-là est un cœur qui est fait pour un futur roi selon les critères de Dieu. Et tout jeune, donc, David a appris à se mettre à l'écoute de Dieu dans la solitude et le silence du pâturage. Ainsi, toute sa vie, il saura écouter Dieu et lui obéir. Même si c'est vrai qu'il est humain et que son histoire montrera que, il va trébucher plusieurs fois dans son histoire personnelle et dans son histoire familiale. Saül, lui, il est très attentif à ce que disent les autres de lui. Il accorde plus d'attention, plus de crédit à ce que disent les autres et plutôt qu'à ce que Dieu lui dit. Détournant la parole originale divine comme ça l'arrange. Et nous, qui écoutons-nous? Ou comment écoutons-nous? Sommes-nous très attachés à ce que disent les autres de nous? Sommes-nous très attachés à ce qu'ils peuvent nous dire, nous conseiller? Le choix de Dieu ici nous déplace vers la mise à l'écart, vers le silence pour écouter Dieu, se mettre à son écoute et approfondir notre foi. C'est un réel défi au milieu du brouhaha, de toutes les voix qui nous parlent, au milieu de notre vie stressée et bien remplie. C'est lui, dit Dieu à Samuel. Le gamin, il ne devait avoir qu'entre 12 et 16 ans, ce gamin-là, oui, là, celui qui est à l'écart, celui qui est un peu rejeté, un peu méprisé, celui qui est hypersensible, musicien, un peu rêveur, c'est lui le futur roi d'Israël. Dieu nous parle parfois pour nous envoyer vers des personnes auxquelles nous ne nous attendions pas, des personnes vers lesquelles nous n'irions pas naturellement. Est-ce que Dieu vous parle ce matin, en ce moment, pour vous demander d'aller vers quelqu'un en particulier, quelqu'un vers qui vous n'iriez pas naturellement? Peut-être ce matin, justement, pensez-vous à quelqu'un et le Seigneur vous dit « c'est lui ». Dieu ne nous parle pas seulement pour nous bénir, pour nous encourager, pour nous manifester son amour, pour nous enseigner. Il nous adresse aussi une parole qui peut nous pousser hors de notre zone de confort, pour aller à la rencontre des autres, qui ne nous ressemblent pas, dont l'apparence ne nous attire pas. Il nous envoie vers ceux qui sont rejetés, mis à l'écart, incompris. En conclusion, je resterai sur ces deux mots, c'est lui. En Jean, au chapitre 1, au verset 29, Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Cette déclaration de Jean-Baptiste fait écho notamment au texte d'Ésaïe 53. Qui a cru à notre message ? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel ? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par nos blessures que nous sommes guéris. C'est lui. Celui dont l'apparence n'attire pas le regard, celui qui est méprisé, injurié, rejeté, mis à l'écart et même plus mis à mort, c'est lui. C'est lui qui a porté nos péchés sur la croix. C'est lui qui est mort à notre place. Le salaire du péché, en effet, nous dit la parole, c'est la mort et nous sommes tous pécheurs. Mais Jésus a payé à notre place pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie et pour l'éternité. C'est lui qui désire être le souverain de nos vies et de nos cœurs, le roi de nos vies et de nos cœurs. Regardons chacun intérieurement encore ce matin à Jésus pour lui dire « C'est toi ». C'est toi qui m'as libéré du péché, de la mort. C'est toi qui m'as donné la vie en abondance. C'est toi que je veux consacrer comme le roi de ma vie et de mon cœur. Amen.